Le journal de la rédaction, c'est avec vous Ilan Malka, bonsoir.
Bonsoir Julie Gacon, bonsoir à tous. Une enquête impartiale, c'est ce que réclament les parents du petit Louis, 7 ans, qui est l'un de ses nombreux enfants, né sans main. Cette famille qui est domiciliée dans l'Ain a porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle a besoin de réponses. L'avocat de la famille a été joint au téléphone par Tara Schlegel. À proximité de Biarritz, le contre-G7 monte son campement. Près de 80 groupes, organisations, associations sont attendus. De nombreux arrivants sont déjà sur place pour préparer ce sommet des alternatives qui va démarrer mercredi. Rosalie Lafarge nous en dira un peu plus. L'île touristique espagnole de Grande Canarie, ravagée par les flammes. Elles ont déjà parcouru 6000 hectares sur ce territoire qui contient de nombreux espaces protégés. Reportage à suivre de Juliette G. C'est un dossier qui ne cesse de poser des questions pour l'instant, toujours sans réponse, celui de ces enfants nombreux nés avec un bras mal formé à la naissance. Aujourd'hui, c'est une famille de l'Ain qui dépose plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Les parents du petit Louis, né en 2012 sans main droite, ont besoin aujourd'hui d'explications. Pourquoi précisément passe-t-il par un juge? Ce qu'ils veulent, c'est une enquête indépendante. Maître Fabien Rajon est leur avocat.
Nous, ce qu'on souhaite, c'est connaître les causes, si on peut les connaître, et si ces causes ne sont pas uniquement le fruit du hasard, car je suis prudent dans le cadre de ma démarche, mais nous souhaitons connaître les causes de cette malformation. Parmi les causes, il a été dit par certains professionnels que des causes environnementales, sanitaires pouvaient être discernées, notamment des causes liées à des pollutions de nappes phréatiques, des causes également en lien avec l'approvisionnement en eau potable, dont le foyer de mes clients. Aujourd'hui, notre difficulté, c'est que nous considérons que dans ce dossier-là, les interlocuteurs qui sont saisis des investigations ne sont pas forcément les bons. Et qu'en tout état de cause, on peut se tourner vers des interlocuteurs qui, à la fois, offrent des garanties en termes d'indépendance, mais également des garanties en termes de compétences. Il y a une démarche qui est effectuée par le CES, le Comité d'experts scientifiques, qui investigue sous l'autorité de ces deux agences de santé, Santé publique France et l'ANSES, dont acte qu'ils aillent au bout de leurs investigations. En revanche, nous souhaitons rajouter, j'ai envie de dire, à ces investigations-là, des investigations qui nous paraissent plus légitimes par le biais de l'autorité judiciaire.
Est-ce que vous allez jusqu'à dire que Santé publique France fait mal son travail ?
Non, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Moi, mon sujet, c'est de confier ce dossier aux bons interlocuteurs. Quand vous êtes confronté à un dossier aussi douloureux, aussi complexe, vous vous posez la question, eh bien, du destinataire d'un tel dossier. Eh bien, je considère que si on veut donner toutes les chances d'avancer dans le cadre de ce dossier, il faut que l'autorité judiciaire soit saisie et qu'on aille au bout des choses.
Maître Fabien Rajon qui répondait aux questions de Tara Schlegel. Qui dit sommet dit souvent aussi contre-sommet. Cela se vérifie aujourd'hui à Biarritz, alors que la ville du Sud va accueillir, vous le savez, le G7 dès samedi prochain. Eh bien, les anti-G7 se rassemblent d'ores et déjà à une vingtaine de kilomètres de là. Ce sont près de 80 groupes, organisations ou associations qui sont attendus. Anticapitalistes, défenseurs de la planète, altermondialistes et autres opposants ont commencé dès aujourd'hui à se rassembler dans leur quartier général d'Urugne pour monter le campement avant le début de leur sommet des alternatives mercredi. Même s'ils doutent de la capacité des sept grandes puissances à les écouter, ils sont bien décidés à se faire entendre malgré tout. Écoutons Sébastien Bailleul, il est le porte-parole de la plateforme nationale alternative G7, également délégué général du Centre de recherche et d'information pour le développement. Il s'exprime au micro de Rosalie Lafarge.
Quand on voit notamment tout le dispositif de sécurité qui est mis en place pour ce sommet-là, on voit qu'on est face à deux mondes très différents, justement. On a d'un côté cette grande puissance qui vont se bunkériser dans un espace fermé à Biarritz pour promouvoir des solutions qui font le monde depuis 40 ans et qui nous amènent dans une situation sociale, économique, écologique, la plus terrible qui soit. Et par ailleurs, notre monde, celui qui se veut ouvert, qui se veut non violent, pacifique, pour montrer que un autre ou des autres mondes sont possibles par rapport à celui qui est proposé aujourd'hui par les sept grandes puissances qui se réunissent à Biarritz. C'est effectivement difficile à envisager qu'ils souhaitent l'entendre et qu'ils peuvent l'entendre. Mais ça nous semble extrêmement important de pouvoir porter la voix des mouvements qui font autrement. Donc, entendu, Certainement pas, en tout cas pas directement. Après, visible, on l'espère, et si ce n'est auprès des gouvernements, au moins auprès des populations et des citoyennes et des citoyens, pour montrer que il n'y a pas que le capitalisme, il y a d'autres choses à porter, à promouvoir, et que finalement, nous sommes déjà nombreux à mettre en œuvre les alternatives aujourd'hui.
Voilà, le G7 qui jusqu'en 2014, on s'en souvient, était le G8, puisque la Russie en faisait également partie, mais le pays avait été exclu, donc il y a 5 ans, après l'annexion de la Crimée. Vladimir Poutine, président russe, ne sera donc pas à Biarritz ce samedi prochain. En revanche, il est actuellement au fort de Brégançon pour échanger avec Emmanuel Macron. On sait déjà que le président français a appelé devant son homologue russe au respect de la liberté d'expression et au respect de se présenter et au droit à se présenter à des élections en Russie. Il a également déclaré souhaiter un sommet à 4 sur l'Ukraine dans les prochaines semaines. Vladimir Poutine, de son côté, a parlé d'un optimisme prudent après ses contacts avec le nouveau président ukrainien. Analyse complète à suivre de cette rencontre Vladimir Poutine-Emmanuel Macron, ce sera dans notre journal de 22h. En Russie, justement, on a appris aujourd'hui la condamnation du français Gurvan Legal à 10 mois de prison ferme. Ce fondateur d'une école de cours de français en ligne a été reconnu coupable de corruption. En mars dernier, il avait été interpellé par des policiers russes et il ne disposait pas du bon visa pour travailler en Russie. Il avait donc donné de l'argent aux policiers, affirmant payer une amende, mais les autorités y avaient vu une tentative de corruption. Gurvan Legal est donc en prison depuis 5 mois. Il devrait être libéré à la mi-octobre selon le système de détention russe. Mais son avocat, maître Alexandre Delavay, n'est pas satisfait du verdict.
C'est une peine qui est totalement disproportionnée, qui est excessive et qui est incompréhensible. Mais comme tout ce qui se passe depuis le début de ce dossier, on ne comprend pas la fermeté de la peine qui est prononcée. Et on estime que Gurvan Legal paye très clairement le fait d'avoir clamé son innocence depuis le début de ce dossier face à un système judiciaire qui ne reconnaît pas l'innocence et qui ne reconnaît pas la relaxe, en tout cas qui ne prononce jamais de relaxe. Les 5 mois de détention qui se sont écoulés ont été marqués par le fait que Gurvan Legal est dans un isolement total. Maintenant qu'il y a une peine qui a été prononcé, on va à nouveau faire des demandes de permis de visite et de communication, mais on n'a aucune certitude et aucune garantie sur le fait qu'on puisse les obtenir. Et on craint que l'incarcération Gurvan Legal, au mieux jusqu'en octobre, se déroule dans les mêmes conditions que celles qui ont présidé à son incarcération depuis le mois de mars, c'est-à-dire dans un isolement total.
Maître Alexandre Delavay, l'avocat donc de Gurvan Legal. C'était attendu, c'est arrivé aujourd'hui. 138 salariés de WN qui avaient repris l'an dernier l'usine Whirlpool d'Amiens ont donc reçu aujourd'hui en main propre une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Ils ne sont donc pas repris par la nouvelle direction AGECO Agencement. Celle-ci, en revanche, s'est engagée à reprendre 44 salariés comme cela avait été précédemment annoncé. Les secouristes italiens ont récupéré aujourd'hui le corps de Simon Gauthier. On rappelle que ce randonneur français de 27 ans a été retrouvé sans vie dans un ravin 9 jours après s'être blessé dans le sud de l'Italie. Une autopsie doit maintenant être effectuée. Elle doit déterminer en particulier si une mobilisation plus rapide et plus massive des secours aurait pu donner lieu à une issue moins tragique. Dans des médias italiens, des amis du jeune homme affirment qu'on aurait pu faire plus pour le sauver. Samedi, la préfecture de Salerno avait assuré dans un communiqué que tout avait été fait dès l'appel à l'aide du jeune homme pour le localiser. L'île touristique espagnole de Grande Canarie frappée par un drame environnemental, ce sont les mots des autorités locales. Cette île, qui contient de nombreux espaces protégés, est ravagée par un troisième incendie en moins de 10 jours. Les flammes sont encore aujourd'hui hors de contrôle, elles ont déjà parcouru 6000 hectares et ont provoqué l'évacuation de milliers de personnes. Reportage de Juliette G.
Cet après-midi, les pompiers sont enfin parvenus à stabiliser une partie de l'incendie sans l'éteindre. Pour l'instant, il n'y a aucun blessé, mais 9000 personnes ont été évacuées et recueillies dans des centres d'hébergement. Cette habitante de Valle Secos, interrogée par la télévision espagnole, a dû tout abandonner.
C'est un désastre. Il y a des personnes âgées qui ne veulent pas quitter leur maison parce qu'elles ont peur de la perdre. C'est pareil pour moi. Si ma maison brûle, je n'ai plus rien.
Pour la biodiversité aussi, le bilan est lourd. Les flammes brûlent désormais le parc de pins de Tamadaba et la réserve d'Inagua, deux sites protégés par l'UNESCO. Ángel Víctor Torres, le président de la région des Canaries, parle d'un drame environnemental.
Nous avons déployé un maximum de moyens aériens, mais cet incendie est très difficile à maîtriser et le nombre d'hectares affectés augmente. Il y a des zones avec des flammes de 50 mètres de haut où il est impossible d'entrer avec des moyens aériens. De même, il y a de la fumée qui gêne notre intervention.
Plus de 1000 pompiers et 14 avions et hélicoptères sont mobilisés, le plus grand dispositif jamais déployé aux Canaries. Selon les services d'urgence, il faudra encore au moins 2 à 3 jours pour contrôler ces feux.
Un reportage signé Juliette G. En Syrie, un convoi militaire turc a été attaqué par l'aviation syrienne. Bilan, 3 morts et 12 blessés, tous des civils. Le convoi a été visé alors qu'il s'approchait de la ligne de front dans la province d'Idlib. Selon la presse syrienne, ce convoi turc était venu prêter main forte à des insurgés. Bonsoir Eric Bigala.
Bonsoir Ilan.
Cet événement pose une nouvelle fois la question des relations complexes Turquie-Syrie.
Oui Ilan, vous savez, l'armée turque est présente à demeure en Syrie depuis un an et demi. Dans la poche d'Idlib, elle a déployé plusieurs centaines d'hommes ainsi que des blindés lourds sur 12 postes d'observation tout autour de la poche d'Idlib en fait. Ces troupes turques participent d'un dispositif arrêté avec les Russes et leurs alliés syriens il y a à peu près un an et qui entendait garantir une cessation des hostilités entre les belligérants. Alors l'accord a tenu un temps, mais depuis le début de l'été, il est battu en brèche par les troupes du régime qui sont repassées à l'attaque. Leur offensive principale a été lancée il y a quelques jours contre Khan Sheikhoun, l'une des seules vraies villes de l'enclave d'Idlib. Une offensive qui menace non seulement la ville de Khan Sheikhoun, mais aussi l'un des postes d'observation turc, celui situé le plus au sud de l'enclave. Au dire des autorités turques, le convoi parti ce matin devait ravitailler ce poste, relever les troupes turques et peut-être aussi les renforcer. Au moins 3 chars lourds voyageaient dans ce train de 50 véhicules. Il n'est pas impossible que ce convoi visait également à renforcer certaines unités rebelles que la Turquie appuie ostensiblement. Le convoi turc était d'ailleurs conduit par un commandant de brigade rebelle. Il aurait été tué dans le bombardement. À l'heure où nous parlons, les troupes du régime interdisent toute aide et tout ravitaillement, toute relève. Elles ont coupé la route principale, celle qui aurait permis de ravitailler Khan Sheikhoun et le poste d'observation turc. L'armée d'Ankara risque donc de devoir monter une opération beaucoup plus lourde pour dégager ces hommes, désormais coincés par les combattants syriens. Une véritable opération de guerre. En s'attaquant directement à l'armée de Bachar al-Assad et à ses alliés russes ou iraniens.
Merci à vous Eric Biegala. Washington accorde à Huawei un nouveau répit de 3 mois. On se souvient qu'au mois de mai dernier, l'administration Trump avait placé ce groupe chinois sur une liste noire en l'accusant de travailler avec les autorités chinoises. Plus concrètement, les États-Unis redoutent des activités d'espionnage de la part de Huawei sur fond de guerre commerciale avec la Chine. Déjà au mois de mai, des exemptions avaient été accordées pour une première période de 90 jours. Aujourd'hui, donc, poursuite des exemptions pour 90 jours supplémentaires. Selon le ministère du Commerce américain, il s'agit de donner aux consommateurs le temps nécessaire pour trouver des fournisseurs autres que Huawei. Retour en France, nous voici sur les plages françaises maintenant avec un véritable fléau des mers qui polluent le littoral et qui représentent les 3/4 des déchets marins. Vous avez bien sûr reconnu le plastique qui est la nouvelle cible du gouvernement. La secrétaire d'État Brune Poirson a lancé une charte plage sans plastique. Une dizaine de communes ont déjà signé. L'objectif à terme, c'est d'éradiquer totalement les rejets de plastique en mer d'ici 2025. Objectif qui paraît pour le moins très ambitieux. Il suffit d'aller sur une plage afin de se rendre compte de l'ampleur de la tâche, comme sur la côte d'Opale, par exemple, près de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, où Lisa Guyenne s'est rendue.
Alors là, on est sur la plage dite de la Pointe aux Oies, donc il y a un site quand même labellisé, reconnu pour son importance écologique.
Thomas Amberger fait partie de l'association Nature Libre, qui nettoie les plages de la côte d'Opale depuis une dizaine d'années. Ici, à la Pointe aux Oies, entre les dunes de sable et les rochers, on tombe sur des centaines de bouts de plastique.
Un sac plastique, c'est un panier à crabes, ça. Ça, c'est un yaourt qui nous vient de, ça nous vient d'Angleterre, je crois.
Et pour voir le pire, il faut examiner de très près le sol. Mêlé aux grains de sable, on distingue de micro-particules de plastique.
En fait, il suffit de gratter. Moi, je le vois déjà, il y a du plastique ici. Je ne sais pas si vous le voyez. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle les granulés de plastique industriel, les GPI. Ou alors, de façon plus romantique, on appelle ça des larmes de sirène.
Ce sont de toutes petites boules noires d'un ou deux millimètres de diamètre, des granulés de plastique recyclés destinés à être fondus pour former d'autres objets.
Sauf que ces plastiques-là, ces petits granulés, c'est tellement petit qu'on en retrouve par millions. Et ça, à ramasser, c'est impossible.
Face à ce constat, l'objectif zéro plastique voulu par le gouvernement et la charte pour des plages sans déchets, Thomas Amberger a du mal à y croire.
Pour moi, c'est se donner bonne conscience sans remettre en cause un système. Oui, on va prendre des mesures. Regardez, on a fait quelque chose. Regardez, on a interdit le coton-tige. Voilà. On a interdit les pailles. On a interdit la vaisselle jetable. Ouais, ok. Mais regardez, les mesures ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, la seule et unique solution, c'est de dire stop, quoi. couper le robinet.
Consommer de moins en moins de plastique, oui, mais il faudra du temps pour inverser la courbe. En 50 ans, notre consommation mondiale a été multipliée par 20. En France, moins de 30% de ce plastique est recyclé.
Un reportage signé Lisa Guyenne. Le temps de demain, c'est pluvieux sur l'Occitanie, l'Auvergne et la Bourgogne. Demain matin, partout d'ailleurs, c'est du beau temps. Les températures de la matinée partent de 14 degrés dans le Puy-de-Dôme. Elles montent jusqu'à 31 en Corse. Cette édition a été préparée avec François-Charles Domergue. Elle a été réalisée à la technique par Cindy Le Grumelec.